Père céleste, Dieu de gloire, toi qui règnes sur ton trône de majesté, nous venons devant toi dans ce précieux nom de Jésus. Je te demande, Père, de répandre par ce même nom de Jésus ton Saint-Esprit au milieu de nous. Tu viennes sanctifier ces temps, que tu viennes les mettre à part pour que, Père, ce puisse ne pas être une prédication parmi les autres, tant pour moi le premier que pour chacun des bien-aimés réunis ici. Mais que comme ta nuée et ton feu régnaient dans ton tabernacle, eh bien tu puisses être là au milieu de nous. Comme Moïse pouvait entendre, comme Josué restait sous cette tente pour t'entendre et te connaître, eh bien nous voulons t'écouter ce matin et nous te demandons, sois présent au milieu de nous. Viens parler à nos cœurs. Oui, comme nous l'avons chanté, nous pourrons être vainqueurs si nous combattons à genoux. Nous ne voulons pas croire à une vie chrétienne de fausses bénédictions, mais nous voulons chercher celle qui est la véritable, la conformité à ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors Père, viens nous aider tous ensemble ce matin, parce que tu as choisi de sauver, mais je crois aussi d'édifier, de fortifier par la prédication. Et Père, nous avons besoin de ton Esprit ce matin. Alors nous t'invoquons avec confiance. Sois présent au milieu de nous. Et dirige-nous dans ces instants. Amen.
Amen.
Amen. J'aimerais commencer par vous lire quelques courtes paroles du Seigneur. La première dans Lévitique, chapitre 19, verset 19, où il nous est dit, « Vous observerez mes prescriptions. » C'est le Seigneur qui parle. Tu n'accoupleras pas des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. La deuxième, dans Éphésiens 4, à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et deux dernières paroles qui vont ensemble, Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés, ça veut dire immergés, plongés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Et Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. »
Vous voyez, bien-aimés, on peut prêcher beaucoup de choses dans l'Église et certainement des choses très importantes. Et en priant pour cette prédication, je crois que Dieu a mis un fardeau dans mon cœur qui n'est autre, je le crois, un fardeau qui est dans le cœur de Dieu. Et ce fardeau qui est dans le cœur de Dieu, c'est que les bases, je pourrais dire, le départ de son évangile à lui, qui est un évangile glorieux, et j'ose le dire souvent, bafoué, vidé de toute sa puissance, de tout son mordant. C'est un évangile, l'apôtre Pierre nous dit, que les anges désirent plonger leur regard dans cet évangile. C'est un évangile glorieux et la génération dans laquelle nous vivons a, je crois, beaucoup minimisé cet évangile de la gloire de Dieu qui est sur la face de Jésus et qu'on a besoin de contempler. Et cet évangile, il a été préparé au fil des siècles par l'Éternel. Il a choisi un peuple, Israël, qui l'a conduit, pas 10, 20, 30 ans, même pas 400 ans, mais pendant des millénaires, parce qu'il le conduit encore aujourd'hui. Et cette histoire est là pour nous instruire de ce qu'est cet évangile. Ces prescriptions, elles sont là pour nous donner des bases pour que ce qu'on peut appeler notre conversion soit une vraie conversion, que notre marche à la suite du Seigneur soit une véritable marche et que son évangile soit glorifié dans ses saints et soit vu par son Église. Et donc, je crois que c'est un fait peut-être pas pour certains d'entre nous, mais de ma petite expérience, lorsque l'on creuse dans la vie des chrétiens, eh bien, on se rend compte souvent que les bases de cet évangile dont j'aimerais vous parler ce matin, eh bien, elles ne sont pas clairement posées. Dès le départ d'une conversion, ces bases ne sont pas clairement posées. Et ce n'est pas difficile à comprendre que lorsque nous construisons une maison, si nous ne partons pas sur des bonnes fondations et que nous partons de travers, alors ensuite, on a beau vouloir essayer de rattraper, ce n'est pas possible. Et je constate aujourd'hui dans l'Église qu'il y a beaucoup de séduction, qu'il y a beaucoup de tentatives d'arriver finalement à cette liberté qui se paye au prix de la croix, on va le voir. Des tentatives d'arriver à cette liberté par des choses qui n'ont plus rien à voir avec cette parole de Dieu, avec cette instruction que Dieu nous a donnée au fil des siècles. Mais ce qui est terrible, vous voyez, c'est que on peut rapidement voir des séductions mauvaises qui nous détournent parce que l'homme charnel non crucifié aspire à cette liberté, à cette communion avec Dieu. Alors il va pouvoir être séduit pour essayer de trouver de manière émotionnelle, sensationnelle, des choses dans sa chair et non pas dans son être spirituel, créé selon Dieu, comme on l'a vu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ça se voit souvent assez vite pour qu'il y a du discernement. Mais il y a aussi un danger, c'est que si les bases ne sont pas clairement posées dans notre vie chrétienne, eh bien, on peut aussi chercher par des enseignements de vérité, par des choses justes et des choses vraies, cet accomplissement que l'on ne trouve pas tant que les bases ne sont pas clairement posées. Et si notre maison n'est pas partie droite, quand bien même on va user de bons matériaux pour la redresser, si ce n'est pas droit au départ, on a beau recevoir des enseignements extraordinaire, appuyé sur la parole de Dieu, mais si nos bases ne sont pas droites, la maison ne pourra pas être cette maison saine, fondée par Dieu, selon Dieu, qui tiendra au dernier jour. Parce que cette parole que tout le monde connaît, cette maison bâtie sur le roc ou bâtie sur le sable, Jésus en parle en lien avec son retour. Est-ce que nous tiendrons, comme Paul en parle aux Corinthiens, sur quoi bâtissons-nous? Alors, j'aimerais ce matin, qu'on puisse s'arrêter ensemble et parler un petit peu de ces bases, si vous le voulez bien. Parce que je crois que moi le premier, et vous aussi je l'espère, c'est des choses qui nous aideront soit à être fortifiés, à être édifiés dans ce que l'on vit, soit à être convaincus de péché, à être convaincus de notre vie chrétienne qui peut-être n'a pas été basée clairement dès le départ. Nous n'avons pas été instruits comme on vient de le lire. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et revêtir cet homme nouveau créé non pas selon nous, avec tous les désirs même bons soient-ils, mais selon Dieu.
Alors, j'aimerais commencer par lire cette parole que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14 et verset 25, qui nous dit « De grandes foules faisaient route avec Jésus ».
C'est le cas de l'Église aujourd'hui, il y a des grandes foules qui font route avec Jésus.
Et Jésus, il se retourna et il leur dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, et suivre Jésus, c'est aller à la croix, c'est aller à la mort radicale du vieil homme qui se corrompt et qui se corrompra toujours par les convoitises trompeuses, et même spirituellement. On va le voir, un vieil homme, un moi spirituel, c'est des choses qui existent.
Car lequel d'entre vous, continue Jésus, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever.
Vous voyez, le but de notre vie chrétienne, on vient de le chanter, c'est si nous sommes à genoux, c'est de rentrer dans sa gloire. C'est notre but. C'est notre but. Et on a besoin de s'arrêter. Le prophète Ésaïe, en parlant de sortir de Babylone, de l'impureté, de ce monde dans lequel nous vivons, il dit « Sortez, mais pas avec précipitation. » Et souvent, on s'est dit converti un peu, je crois, précipitamment. Et ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on puisse s'arrêter quelques instants pour voir, voilà, on va construire une tour, ou peut-être on a commencé à construire une tour, mais comment on est parti ? Oui, on doit sortir de Babylone, mais ne sortons pas avec précipitation. Parce que si on sort avec précipitation et que l'on n'est pas clair, eh bien, on va vivre avec deux semences en nous. Et pourtant, les prescriptions de l'Éternel, c'est de ne pas ensemencer un champ avec deux semences. On va vivre une vie chrétienne avec un habit fait de deux fils. Et pourtant, les prescriptions de l'Éternel sont que nous sommes appelés à être revêtus de Jésus-Christ. Si nous sommes baptisés en lui, nous sommes appelés à être revêtus de Jésus-Christ pour que notre nom ne soit pas effacé du livre de vie, mais que Jésus confesse notre véritable vie chrétienne et conformité à Christ devant le Père et devant les anges. Et qu'ainsi, cette construction que l'on a commencée, on puisse l'achever. Parce que notre but, bien-aimé, c'est d'achever cette construction. C'est d'arriver au bout et c'est la gloire de Dieu. Et nous sommes dans des temps fâcheux. Nous sommes dans ce temps de Babylone. Nous sommes dans ce temps d'un mystère de l'iniquité qui arrive à son comble. De ce règne de l'Antichrist. Et qu'est-ce que le règne de l'Antichrist ? Eh bien, c'est ce moi qui vit. C'est ce vieil homme qui vit. Qui n'arrive pas à se laisser crucifier sans se justifier. À la croix, de manière claire, nette et précise et consciente, par une véritable repentance pour revêtir Christ. Et alors, dans ce temps dans lequel on est, c'est obligé que ce soit difficile et qu'on manque de clarté, parce que tout ce qui nous entoure nous pousse à finalement justifier notre propre vie. On vit dans un monde tellement loin de l'Écriture. Et ça, on a besoin du Saint-Esprit, peut-être pour nous secouer dans l'esprit de notre intelligence. Il n'y a qu'une fois que nous avons été renouvelés dans l'esprit de notre intelligence qu'on arrive à comprendre ces choses. Vous voyez, si on pouvait maintenant, tous ensemble, revenir au temps du tabernacle et nous trouver devant cette nuée et devant ce feu, je vous assure que pas beaucoup d'entre nous serions vraiment tranquilles, paisibles. Et assuré de notre salut. Si le prophète Élie était là au milieu de nous, si Moïse était là au milieu de nous, si Samuel était là, si Paul, Pierre était là au milieu de nous. Vous savez, parfois, on rêve de redevenir cette église apostolique, cette église primitive. Mais vous voyez Ananias et Saphira qui étaient prêts à donner
la quasi-totalité de leur maison, mais à garder un petit peu pour eux, ils sont tombés morts devant l'apôtre Pierre. Et je crois que nous vivons dans une génération déconnectée de la Bible. Et si nous revenons par un esprit renouvelé à la parole de Dieu, à l'écriture, à l'histoire d'Israël, à l'histoire de l'Église aussi, à l'histoire primitive, mais aussi à l'histoire de la réforme, eh bien, devant ces hommes qui ont versé leur sang pour Christ, eh bien, on se trouverait, je ne veux même pas parler de dire qu'on se trouverait tiède, mais j'ai l'impression qu'on se trouverait comme face à des gens différents de nous, face comme à un autre monde. Bien-aimés, nous vivons dans le comble du péché en ce moment. Si Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël, c'est parce que l'iniquité des Amoréens, l'iniquité de ce monde est arrivée à son comble. Et ça, c'est une chose terrible. Et le péché, c'est ce qui nous fait manquer le but. Voilà l'étymologie du mot péché, c'est de manquer le but. Alors il est bon de revenir et de bien réfléchir et sonder nos cœurs. Laisser Dieu sonder nos cœurs, sonder nos voies pour être de ceux qui vont atteindre le but. Mais c'est dur dans notre génération. On passe pour des fondamentalistes si on prêche réellement la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Ou alors je passerai pour un passionné, un fou de Dieu. Je peux vous dire que j'ai été un passionné de Dieu. J'étais en Inde et j'étais, je pourrais dire à ce moment-là, un fou à prier, même dans des quartiers musulmans à Calcutta. J'ai fait des choses que certainement je n'oserais pas faire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une passion pour Dieu. Mais quand je prêche ces choses, je vous dirais sans vouloir vous choquer que je suis plutôt un révolté. Un révolté de voir comme nous avons minimisé la parole de Dieu, minimisé l'évangile de ce Dieu saint. Que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, je le redis, on apporterait Élie ici, on apporterait des prophètes. Qu'est-ce qu'il ferait dans nos églises aujourd'hui? Je crois que on se rendra compte, pour ceux qui seront sauvés, qui rentreront dans la gloire de Dieu, pour ceux qui ressusciteront avec tous ces témoins de la foi, on ressuscitera avec eux ou on ne ressuscitera pas. On ressuscitera avec Élie, avec Élisée, on ressuscitera avec Paul, avec Pierre, on ressuscitera avec ces martyrs ou on ne ressuscitera pas. On a la même foi. On est des hommes de la même nature que ces gens-là. Eh bien, je crois que quand on participera à cette résurrection de la chair pour rentrer dans son règne, eh bien, on se rendra compte au combien ce monde était puissant, au combien ce monde était une sorte d'anesthésie, vous voyez, qui nous fait tomber dans une somnolence. Un humanisme si puissant aujourd'hui que nous ne nous en rendons plus compte. C'est l'ère de la psychologie qui justifie sans cesse le moi, le temps du confort. On est les plus à plaindre, nous qui habitons en Suisse et en France, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et on a cette même foi et on aspire à cette même espérance que ces Chinois, que ces Indiens qui versent leur sang aujourd'hui. Et donc, si nous devons passer pour des fondamentalistes ou pour des passionnés, eh bien, je passerai plus pour un révolté, dans le sens que lorsque je communie vraiment avec le cœur du Père et avec sa parole, je me rends compte que nous sommes parfois à des années-lumière de vivre vraiment dignement cet évangile, cette conformité avec Jésus-Christ. Alors que ce matin, on puisse se souvenir de cet évangile de Dieu, et qu'on puisse en entendre parler, je l'espère, dans sa véritable puissance, une puissance de libération, une puissance de salut. Alors, je commencerai par poser cette question en disant, comment est-ce que nous avons, comme nous le disons un petit peu dans notre jargon évangélique, comment nous avons reçu Jésus-Christ, ou comment nous nous sommes convertis? On peut chacun peut-être se laisser sonder. Ce n'est pas une parole de condamnation que j'aimerais apporter ce matin, mais c'est une parole de libération. Mais parfois, on a besoin de voir clair et même d'être convaincu de péché, même profondément. Pas pour dire « tout ce que j'ai vécu, ça valait rien », mais pour dire « il faut que je reparte sur des véritables bases. Alors tout ce que j'ai vécu de juste, je le retrouverai, je le vivrai. Mais tout ce qui est de ce faux fil, de cette fausse semence, eh bien, je vais l'exterminer. Nous venons de fêter Pourim il y a quelque temps. Nous avons lu ces paroles où Dieu demande d'effacer la mémoire d'Amalek. Parce que si on n'efface pas la mémoire d'Amalek, eh bien, elle revient avec Agag, elle revient avec Aman. Et nous serons dans un combat que Dieu ne veut pas. Il y a des vieils hommes qui souffrent et il y a des chrétiens qui souffrent. Et il faut voir que ça, c'est deux choses totalement différentes. On est appelé à souffrir avec Christ, à être conformé à l'image de son Fils, à sa passion, prendre cette croix et l'aimer plus que tout pour ressusciter avec lui. Mais si on souffre comme un non-chrétien ou comme un chrétien qui souffre parce que les bases ne sont pas posées, ce n'est pas la souffrance que Dieu nous veut vivre. Alors, comment avons-nous appris Christ? Avons-nous été instruits au départ de notre conversion? Je sais que beaucoup de personnes, et il y a même une tentation pour ma part de le pratiquer lorsque des incroyants arrivent et que leur cœur s'ouvre, on va dire « ouvre ton cœur et que Jésus vienne ». Ouvre ton cœur et que Jésus vienne. Ou alors on va imposer les mains pour espérer que l'Esprit Saint vienne les toucher. Et certainement que Jésus rentre, certainement que le Saint-Esprit touche. Mais ça, c'est qu'une expérience spirituelle. Et parfois même, un inconverti va recevoir le parler en langue. Et on déclare les gens sauvés, on déclare les gens convertis, alors que les bases, elles ne sont absolument pas là. Parce qu'on est touché, parce que Jésus est venu dans notre cœur, parce qu'on vit une expérience spirituelle, ça y est, tu es chrétien. Ça y est, tu es chrétien. Alors ce chrétien, il va marcher, il va avancer, il va entendre des choses, mais les bases ne sont pas posées. Vous voyez, le prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 9, il nous dit « Le cœur est tortueux plus que toute chose. » Et il est incurable. Le cœur, notre cœur, est tortueux plus que toute autre chose, et il est incurable. Vous voyez ? Jésus dit en Matthieu 16, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » Moi, je ne crois pas en Jésus qui vient dans un cœur incurable. Moi, je ne crois pas qu'un cœur incurable et qui est tortueux plus que toute chose, et qui proclame qu'il est sauvé en Jésus-Christ, sera sauvé. Comme Jésus a dit à ce jeune homme riche, lorsqu'il lui a dit « Suis-moi », alors qu'il lui disait « Qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que Jésus lui a répondu ?« Toi, tu ne peux rien faire. Tu as beau faire tout ce que tu voudras, tu resteras avec ton cœur incurable, avec cette nature de péché que tu as héritée de tes pères, qui est le résultat de la chute d'Adam. On a, avant d'avoir péché, une nature de péché. Et tu resteras avec cette nature de péché. Et quand il lui a dit, vends tout et suis-moi, ce que Jésus disait en disant ça, il allait chercher le plus profond de lui-même. Là, tu es obligé vraiment de perdre ta vie. De dire, mon cœur, on va le voir, eh bien, je dois m'en repentir. Et il doit être crucifié avec Christ. Il doit être baptisé, immergé dans la mort de Christ. Tu dois vivre une vraie repentance pour que par la foi, je te donne un cœur nouveau. Une nouvelle vie, je puisse te revêtir réellement de Christ. Voyez, c'est une différence fondamentale. C'est une différence fondamentale parce que nous pouvons proclamer bien des choses de notre cœur tortueux, de notre cœur déchu. Si nous ne le perdons pas, eh bien, nous allons être dans des faux combats. Nous allons vivre une fausse vie chrétienne. Et Jésus, il a regardé ce jeune homme riche et c'est ce qu'il a pointé au plus profond de lui. Est-ce que tu as vraiment perdu ta vie ? Car celui qui voudra sauver sa vie, pas se dire chrétien, mais réellement sauver sa vie, la perdra. Il a pointé vers ce jeune homme qu'il aimait. Qu'il aimait. La Bible nous dit qu'il l'aimait. Il a pointé ça. Est-ce que vraiment tu as perdu ta vie? Et ça, bien aimé, c'est vraiment sérieux. Parce qu'aujourd'hui, les fondements sont ébranlés. Et on a besoin, si nous voulons être des justes, de nous laisser sonder par Dieu. Pour que nous soyons vraiment de ceux qui se sauvent de cette génération perverse. Et lorsqu'il lui a dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu On va le voir, on est fait pour ce royaume, pour ce but. Qu'un chameau a passé par le trou d'une aiguille. Tout de suite, on pense aux richesses. Et c'est vrai, c'est ce que nous dit la parole. Mais c'est surtout d'être riche de nous-mêmes. Si on est riche de nous-mêmes, si nous avons ce vieil homme, comme le dit la Bible, j'aime dire ce moi parce que ça me paraît plus parlant, ce moi-je, sa vie, si nous sommes riches de notre vie et que nous ne pouvons pas la perdre, eh bien nous ne serons pas sauvés. Et alors qu'il a dit ça, les apôtres ont dit, mais alors qui c'est qui peut être sauvé? Et Jésus leur a dit, pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Et c'est ce que j'aimerais affirmer ce matin. Parce qu'on a minimisé la puissance de l'Évangile qui nous a été prêchée par le Saint-Esprit venant du ciel. Parce qu'on a méprisé cette puissance de salut. Justement, on a besoin de revenir au temps du tabernacle. On a besoin de comprendre quel est ce Dieu d'Israël. Et que Jésus n'est pas un autre Dieu, c'est pas un Dieu étranger, c'est ce même Dieu. Il y a cette même puissance dans ce même Dieu qui est le même hier et il est le même aujourd'hui pour nous sauver comme ces premiers chrétiens étaient sauvés. Parce qu'ils étaient vraiment sauvés, ils étaient vraiment libérés et engagés à la suite du Messie. Mais pour nous, bien-aimés, pour l'homme, c'est impossible. À vouloir dire « viens dans mon cœur », on est touché par le Saint-Esprit. Mais si on veut marcher par nous-mêmes, faire des choses par nous-mêmes, être enseigné, tant que Dieu, par sa puissance, n'opère pas une œuvre en nous pour que ce cœur tortueux et incurable soit crucifié et que par la foi, en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous puissions ressusciter, nous puissions être créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et la vérité, elle doit mettre la lumière sur toute notre vie, sur tous nos liens, sur tout ce qui nous tient. Et elle doit nous enseigner la vraie repentance, la vraie foi et la vraie sanctification. Et sans ces choses, on ne verra pas le Seigneur. On aura beau dire Seigneur, Seigneur. Je terminerai par ça. On aura beau dire Seigneur, Seigneur. Mais il nous donnera ces paroles terribles. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Alors, j'aimerais continuer avec le chapitre 36 d'Ézéchiel. Vous savez ce qui est arrivé, ce qui va arriver à Israël. L'apôtre Paul dit que ce sont des choses qui ont été données et qui sont encore données pour notre instruction. Et en Ézéchiel 36, et au verset 24 jusqu'au verset 27, ces trois versets nous donnent, je dirais, vraiment les bases de ce qu'est la conversion. Ézéchiel, Dieu parle au travers de lui en disant « Je vous retirerai d'entre les nations ». C'est la première chose. « Je vous retirerai d'entre les nations ». C'est la première prédication de Jésus. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est la prédication de Pierre aussi. « Repentez-vous ». Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, immergé dans sa mort, alors vous recevrez le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis des gens, ils peuvent être touchés par l'Esprit, mais s'il n'y a pas une claire repentance avant, bon, il y aura un habit double. Mais imaginez-vous quand on a un habit double, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas vouloir continuer à faire cette théorie de l'autruche, à garder la tête dans la terre, il faut oser la lever et dire « Oui, j'ai encore un habit de deux fils, je ne suis pas parti juste, je ne suis pas parti droit, et maintenant j'enlève cet habit et je me repens, et tout cet habit, je l'immerge dans la mort de Christ. Je me repens, je vais vraiment me laisser sonder par ce même esprit du tabernacle qui est l'esprit de sainteté. » Ça veut dire l'esprit qui sépare, l'esprit qui met à part. On appelle le Saint-Esprit aujourd'hui à toutes les sauces et on ne se rend pas compte de ce qu'est le Saint-Esprit. On n'a pas la crainte de Dieu et la crainte du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, il fait une œuvre de sanctification en nous, de séparation. Alors la première chose, je vous retirerai d'entre les nations. Vous allez vous repentir, vous allez sortir d'Égypte et tourner à 180 degrés pour un authentique retour vers le Seigneur. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Celui qui se repent, qui sort de son péché et de son moi, alors par la foi dans le sacrifice de Jésus, il est purifié de toutes ses souillures, pardonné de tous ses péchés. Et il est justifié, c'est-à-dire déclaré juste devant Dieu par sa foi en Jésus-Christ. Mais un cœur incurable, déchu, qui proclame sa foi en Jésus-Christ, et que dès qu'on essaye de gratter un petit peu, va vous dire « Arrête ! Je suis sauvé en Jésus, j'ai mon passeport pour le ciel. » Vous croyez vraiment qu'il va ressusciter avec ses témoins de la foi? On n'est pas sauvé par les œuvres, par notre seule foi en Jésus-Christ, mais je prends ces exemples pour nous ramener à la dignité de notre évangile. C'est en cela que je disais que plus qu'un passionné, je serais un révolté, parce que je crois que Dieu saigne. Dieu saigne de voir ce que l'on peut faire de son évangile. Cet évangile glorieux qui doit libérer et préparer une épouse pure, sans tache, qui va aller à sa rencontre pour ses noces de l'agneau, et bien souvent c'est une église qui n'est pas cette épouse pure et sans tache. C'est une église qui reste double. Alors écoutez bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et comment il le fait? J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors est-ce que ces choses, elles sont claires dans notre vie? Est-ce qu'on s'est vraiment repenti et que ce cœur de pierre, il a vraiment été ôté de notre vie? Parce que vous savez, je connais beaucoup de cœurs qui proclament Jésus-Christ, qui sont même à fond dans les choses de Dieu. Mais la vraie puissance de Dieu, la vraie huile, ils ne la connaissent pas. Ils connaissent une huile faite de connaissance, de savoir. Ils sont avertis, ils sont clairs. Mais l'huile du Saint-Esprit, de l'Esprit de sainteté, qui a vraiment mis à part les gens et formé Christ en eux, pour être de ceux qui se tiendront debout solidement à son avènement, ils ne la connaissent pas. Et cette huile, elle ne coule pas en eux. Et c'est une histoire de vie ou de mort, c'est notre destinée éternelle dont on est en train de parler. Cette huile, ce n'est pas une huile de savoir. Cette huile, ce n'est pas une huile de connaissance. Cette huile, on ne peut pas la donner. Vous remarquerez que dans la parabole des 10 vierges, eh bien, les vierges folles ont demandé aux vierges sages, « Donnez-nous de l'huile. » On sait que la vie chrétienne, c'est de se donner. Alors on dira, comment ça se fait qu'elles n'ont pas donné l'huile? Parce qu'elles ne pouvaient pas donner cette huile. Parce que cette huile, on ne peut pas la donner. Cette huile, c'est quelque chose qui se passe seul à seul devant Dieu. C'est notre histoire personnelle. Comme je le dis à ma propre épouse, je ne comparaîtrai pas avec toi, et elle ne comparaîtra pas avec moi devant le Seigneur. Là, on sera dans un seul à seul. Et c'est le temps d'être dans ce seul à seul. Cette huile, c'est l'huile de Gatchmané en hébreu, de Gethsamané, le pressoir des olives. D'où coule cette huile? C'est le lieu où personne ne veut aller. C'est le lieu où les apôtres dormaient. C'est à ce moment-là que Jésus leur a dit « Veillez et priez ». Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont endormis. C'est ces paroles que Jésus avait dites et dont les apôtres se sont certainement souvenus après. Ces paroles liées à la fin des temps, de veiller et de prier. Où ça? À Gethsémané, à ce pressoir aux olives. C'est le lieu où on ne veut pas aller. Et c'est le lieu où on peut être que seul à seul avec Dieu. C'est le lieu où il scrute nos cœurs. C'est le lieu où cette parole de Dieu, elle vient vraiment faire une œuvre qui ne reste pas extérieure à nous, mais qui vient vraiment faire l'œuvre de l'évangile du salut en nous pour nous sauver, pour séparer réellement l'âme et l'esprit. Et que ce cœur tortueux et incurable, il soit vraiment crucifié, il soit détruit. Je détruirai, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et alors, on reçoit ce cœur de chair. Et cette huile, qui est véritablement l'huile du Saint-Esprit, qui est l'huile de la marche par le Saint-Esprit, alors cette huile, elle coulera véritablement en nous. On saura ce que c'est. On saura ce que c'est. Et il termine par dire, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Celui qui est mort et ressuscité avec Christ, eh bien, il marche par l'esprit. Et cette loi qui le condamnait, il était sous la loi parce que dans son cœur pécheur, il était condamné par la loi. Eh bien, cette loi, elle s'accomplit en lui par le Saint-Esprit et il suit Jésus et il marche dans ses préceptes que Dieu a donnés d'une manière parfaitement libre, conduit par le Saint-Esprit. Alors, on peut prendre, si vous voulez, ensemble, pour étayer un peu ces propos, la lettre aux Colossiens, écrite par Paul. Et nous pouvons lire au chapitre 2, à partir du verset 6. Colossiens 2, verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marcher, si on a vraiment reçu le Seigneur, on ne marche pas en nous, on marche en lui. Marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, par les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. J'ai envie de vous dire, ils avaient de la chance, cette église de Colosse. Parce que eux, dès le départ, je pense qu'au travers d'un apôtre tel que Paul, ils étaient clairement instruits. Ils étaient clairement instruits. Mais vous voyez, on lit toutes les lettres même, en particulier la lettre aux Corinthiens. Même des gens instruits, à qui il a dit « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et mon discours, il n'avait rien des discours persuasifs de la sagesse. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Pour que vous n'ayez pas cette foi du cœur incurable, je paraphrase, mais cette foi en la puissance de Dieu. Eh bien, même dans ces églises-là, il y avait des problèmes. Il y avait des gens qui marchaient dans la chair. Alors imaginez-vous, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, le Seigneur est proche, nous sommes dans ce comble du péché. Imaginez-vous comme on a à faire attention et à vraiment scruter les Écritures, à laisser tout ce qui est Internet et toute une littérature qui parfois fait que ce moi spirituel grandit, mais à la crucifier aussi, pour avoir vraiment l'huile qui vient de Christ. Et pas l'huile qui vient de je ne sais quel homme de Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Cette huile, elle se trouve dans le pressoir, aux olives, seul à seul avec Dieu. C'est une huile qui est du vécu. C'est quelque chose, cette huile. Cette vie du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se vit dans un cœur nouveau, créé selon Dieu. Alors il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si on a minimisé son évangile, c'est parce qu'on a minimisé Jésus lui-même. La puissance de Jésus, c'est lui qui a tout créé. Il est le Créateur. Il est la parole qui a tout créé. Jésus, il a toute la puissance. On a tout en lui. Et on va des fois chercher ailleurs. On est encore une église qui cherche, et c'est comme si nous ne l'avons pas réellement rencontré. Si ce salut, il ne s'est pas réellement opéré dans nos vies. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Et cette circoncision de Christ, elle consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voyez, il reprend ces paroles d'Ézéchiel. Dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Est-ce qu'on a été enseveli avec lui par le baptême? Un cœur, un vieil homme, notre nature de péché que nous avons héritée d'Adam, elle est appelée à être ensevelie. Quelqu'un qui est enseveli, il n'a pas une main qui sort et puis qui dit « j'ai besoin de ceci, je veux cela ». Il est enseveli. Est-ce qu'on est enseveli avec lui et alors ressuscité par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts? Est-ce que ça, c'est une action réelle et tangible de Dieu dans nos vies? Alors moi, je ne vous dirai jamais, comme Paul, montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais je peux vous donner mon témoignage. J'ai eu la grâce, je crois, d'être formé en Inde et de ne pas connaître du tout ce monde évangélique et de pouvoir apprendre Christ au travers d'un homme qui m'a appris, je dirais, à mourir à moi-même et à me lever tôt le matin, à jeûner, à lire la parole de Dieu. Et depuis, je sais qu'en moi, qui dois tenir mon corps en bride de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié et je n'achève pas ma course. Je sais qu'en moi, cette huile, je l'ai. Ce n'est pas du savoir, ça n'a rien à voir avec ça. Que Christ, il est formé en moi, il s'est établi, c'est quelque chose de concret, de réel. Et ça, ce n'est venu de rien d'autre que ma vie chrétienne. Que de vraiment voir clairement quel était mon vieil homme, ma nature de péché, avec tous ses rouages, avec toutes ses convoitises, et de ne pas discuter une seconde avec Dieu, mais de me repentir clairement et de renoncer. C'est là le vrai combat. C'est là qu'on est vraiment à genoux. C'est là qu'on est au pressoir. Mais c'est là que coule l'huile. C'est là que se forme Christ en nous. Et qu'alors on peut prêcher Christ, on peut parler de Christ, on peut être libéré par Christ et on peut le connaître réellement. Un vieil homme, il ne connaît pas Dieu. Il a bien dû savoir, mais il ne connaît pas Dieu. Connaître, ça veut dire naître avec. Connaître Dieu et se savoir connu de lui. C'est Christ qui se forme en nous. C'est ce Saint-Esprit qui vit réellement en nous. Et alors, qui croit en nous. Parce que quiconque vit une véritable conversion, repentance, foi, nouvelle naissance, eh bien alors, il va croître. C'est obligatoire qu'il va croître jour après jour. Parce que s'il est vraiment un fils de Dieu, il va entendre la voix de Dieu et il va obéir à cette voix de Dieu. C'est un scandale, je dirais, que des chrétiens qui se disent chrétiens depuis plusieurs années, quand on va leur poser la question, mais est-ce que tu entends la voix de Dieu ? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu ? De dire, ben, j'ai jamais vraiment vu la différence. Je ne parle pas en réunion de prière. Je parle de notre vie de tous les jours, vous comprenez ? Est-ce que vraiment on a ce discernement entre la chair et l'esprit ? Entre nos pensées, nos sentiments, et les pensées et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui est vivant et qui parle encore aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui doit être clair, sinon on est comme dans une mélasse. Et puis, il y a un peu de Christ, un peu de nous, on a cet habit double, on a ces deux semences, et on n'est pas clair. Et on ne peut pas croître. On ne peut pas grandir dans la conformité à Jésus-Christ. Alors, il y a des gens qui disent et qui répètent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais ils oublient de lire la suite, de ceux que Dieu a appelés selon son dessein à devenir semblables à l'image de son Fils. Ce Fils qui est appelé être l'aîné d'une multitude de frères. Et on dit « Jésus est mon frère, Jésus est mon ami », mais ce n'est pas vrai. C'est des paroles terribles et profondes, extraordinaires bien sûr, d'être vraiment le frère de Jésus et l'ami de Jésus. Mais pour ça, on doit entendre sa voix et dans notre vie de tous les jours. Si on sait que des choses ne sont pas bonnes, si on sait qu'on est poussé et puis qu'on n'écoute pas la voix de Dieu pour ne pas lui obéir, mais comment on peut se dire chrétien ? Comme je le disais, si on était reprojeté au temps du tabernacle, au temps de ces hommes de Dieu qui ont façonné l'histoire, je pense qu'ils nous remettraient vite les pendules à l'heure. Ils nous remettraient vite les pendules à l'heure. Et les prescriptions du Seigneur, elles sont éternelles. Il n'y a pas un iota qui s'enlèvera jusqu'à ce que tout soit accompli. Jusqu'à ce qu'ils viennent. Et ces bases, elles doivent absolument être claires dans notre vie. Parce que si on est mélangé, comment on peut grandir ? Comment on peut être sanctifié ? Ce n'est pas possible. Par contre, celui qui a ses bases, qui a eu une vraie repentance, eh bien, Dieu va l'instruire. Et alors après, en toute chose, je le répète, pas qu'aux réunions de prière, mais tout au long du jour, eh bien, l'Esprit va lui parler. Il va savoir exactement ce que ça veut dire d'être guidé par l'Esprit. Mais pas pour une décision importante, oui aussi, mais pour la vie de tous les jours. Et ça va dans des petites choses. Mais ce n'est pas, pardonnez-moi de dire comme ça, qu'on se prend la tête. Non, parce qu'on est mu par l'Esprit. Et même dans les toutes petites choses, Dieu nous parle. Et Dieu utilise toutes choses pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Pour nous transformer de gloire en gloire par le véritable Esprit du Seigneur. Et alors, on va être fortifié en Christ. On va grandir en Christ. Et nous ne cesserons de grandir. Et c'est cela notre vie chrétienne, de croître en Christ. Comme le disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et cette sanctification, elle ne peut qu'être claire et vraiment vécue si les bases sont claires. Et ces bases, on peut continuer ce texte,
elles nous disent, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui.
Vous voyez, on était morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Et vous voyez, je pense que nous devrions, plus que de parler de nos péchés, nous devrions parler de notre nature de péché. Parce que vous avez tous fait l'expérience comme moi que vous pouvez nettoyer n'importe quel lieu, la poussière reviendra, la saleté reviendra. Vous pouvez couper les branches de n'importe quel arbre, à moins qu'il soit mort, eh bien, il va repousser. Alors on peut confesser nos péchés, on peut demander pardon pour tous nos péchés. Si on ne s'attaque pas à notre nature de péché, on redeviendra sale aussitôt. Nos branches, nos vices, nos découragements, notre nature de péché reviendra au galop. Et l'évangile de Jésus-Christ, il est là pour nous sauver, pour nous libérer de cette nature de péché, cette nature adamique. On est ses fils d'Adam. Pécheur, ma mère m'a conçu. On est façonné en tant que fils d'Adam. Et Jésus vient pour nous libérer de cette nature, pour sortir cette racine et planter un nouvel arbre. Et on a comme des arbres de deux espèces, de deux couleurs, où le Christ viendrait se greffer à nous qui sommes pécheurs, qui est une nature de péché. Non, on reçoit la nature de Christ pour une réalité nouvelle, une nature nouvelle, le royaume de Dieu. On n'est pas fait pour ce monde. On est fait pour son règne. On est fait pour son royaume. Sinon, bien-aimé, on est sauvé, mais sauvé de quoi? On est libéré, mais libéré de quoi? Pour beaucoup, je pense que c'est, je le redis, c'est une parole, j'espère qu'il va pouvoir nous éclairer pour l'Église en général. Ce n'est pas de la juger, mais c'est d'avoir du discernement. Parce que dans ces temps, on a besoin de discernement. Souvent, si on creuse, eh bien, c'est comme si certains voudraient être sauvés pour échapper à l'enfer. C'est comme un moi, si vous voulez, qui veut aller au ciel. Un moi qui a peur de l'enfer, qui veut échapper à l'enfer. Mais vous savez qu'il n'y a aucun moi qui ira au ciel. Il n'y a aucun moi qui ira au ciel. Et le ciel, vous savez ce que c'est? C'est la glorification du nom de Dieu et de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est la glorification de notre salut. Comme Paul le dira aux Éphésiens, on a été choisis dès avant la fondation du monde pour servir à célébrer sa gloire dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. L'éternité, c'est de rendre gloire à Dieu pour son salut. Donc comment un vieil homme chrétien pourra aller au ciel? Si on ne fait pas de Jésus le maître de notre vie ici-bas, comment vous voulez qu'on aille au ciel? Parce que le ciel, c'est de glorifier ce maître. Si on ne veut pas le glorifier ici-bas, souvent on va dire, oh non, bien sûr que je veux le glorifier. Ben, regardons, comme disait le prophète Jérémie, regarde tes pas dans la vallée. Est-ce que vraiment, du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous glorifions le nom de Jésus-Christ? Et ça, ce n'est pas réservé à une élite. Tout le monde n'est pas appelé à tout quitter pour servir Dieu. Mais tout le monde est appelé à se conformer à Jésus-Christ. Et en ce que chacun de nous vivra, Christ pourra grandir, Christ pourra se façonner, Christ pourra se former. Et ça, c'est des choses qui sont absolument capitales. On a, je crois, beaucoup encore trop de moi qui loue, même de moi qui adore sensationnellement, de vieil homme qui adore, qui loue, qui proclame le nom de Jésus, mais qui ne sont pas circoncis. On était mort par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Et cette chair, elle a absolument besoin, bien-aimé, d'être crucifiée. On a absolument besoin d'en être libéré. C'est là toute la puissance de l'Évangile, d'être libéré de cette chair. Ce n'est pas possible à l'homme, mais c'est possible à Dieu. Et c'est là la gloire de son Évangile. Et c'est ce qu'on va célébrer au siècle des siècles, parce qu'on sera libéré de cette nature adamique qui nous amenait à retourner à la terre et à aller dans l'enfer éternel. Et on sera à glorifier Dieu au siècle des siècles. On se rendra compte, on aura l'éternité pour nous rendre compte de ce qu'est ce glorieux évangile, que l'on bafoue trop souvent, que l'on falsifie, comme disait Paul, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça, c'est une réalité pour nous, bien-aimés? Est-ce que c'est vraiment une réalité dans nos vies de tous les jours? Parce qu'on peut vite dire « Amen » et ne pas se rendre compte qu'on n'arrive pas à entendre ce que Dieu nous dit, vous voyez. Par notre vie de tous les jours, est-ce que vraiment on craint le Seigneur? Est-ce qu'il nous a circoncis et qu'on est libre? En Genèse 17, il nous est dit ceci. « C'est ici mon alliance que vous garderez. » C'est ici mon alliance, dit Dieu. Pas l'alliance qu'on peut s'être fait avec nos cœurs qui désirent Dieu, certes. Mais c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. On a là une image d'Israël et de l'Église. On va tous devoir être circoncis, sans quoi on ne pourra pas adorer Dieu. Il est l'esprit de la sainteté. Regardez dans le tabernacle, le lieu saint, il ne pouvait rien avoir d'impur. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand on est face à ce tabernacle et qu'on regarde nos vies, si les fils d'Aaron, ils avaient simplement amené un feu étranger et pas le feu de l'autel, ils sont tombés raides morts. Ne nous croyons pas arriver trop vite. Arrêtons-nous. Ne sortons pas avec précipitation. Ne soyons pas légers. Mais scrutons nos cœurs et cette crainte de Dieu pour cette circoncision de Dieu, alors elle va se faire. Et alors on sera libre. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. Et j'ose le dire, nous avons violé l'alliance de Dieu. Nous avons trop souvent violé l'alliance de Dieu. L'Église est faite de deux fils et pourtant elle devrait être revêtue de Christ. L'Église est faite de deux semences et pourtant, comme le dit l'apôtre Jean, celui qui est de Dieu ne pêche plus parce que la semence de Dieu demeure en lui et parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que cette semence, elle demeure réellement en nous. Eh bien, on peut vivre avec Christ en conformité avec lui. Mais on est dans ce siècle humaniste qui excuse tout. Et nous avons trop souvent violé son alliance. Et je termine en vous disant que si ces choses paraissent trop fortes, trop dures, eh bien c'est que nous avons, comme je l'ai introduit, le malheur de vivre dans cette génération du péché, dans cette génération du moi. Nous sommes les plus à plaindre, je le répète, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et nous ne nous rendons pas compte d'une chose, c'est que nous sommes faits pour ce royaume. Jésus, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. N'est-ce pas? Il n'a pas que dit, repentez-vous. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'apôtre Paul, il a dit, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On est fait pour la gloire, bien-aimés. On est fait pour la gloire. On est fait pour le royaume de Dieu. Et on vit dans un monde où il y a tout qui nous tire à la chair. Il y a tout qui nous pousse à être conformés au monde. Et on a besoin de cette vision de la gloire de Dieu. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous révéler le Père et le Fils sur leur trône. On a besoin de cette vision de l'éternité, de se rendre compte qu'on est fait pour le royaume. On a besoin d'une révélation de ce règne, de ce royaume de Dieu. On n'est pas fait pour cette terre. On peut s'attacher à plein de choses sur cette terre, mais on n'est pas fait pour cette terre. On est fait pour ce règne. Cette nouvelle nature qu'il peut mettre en nous, c'est cette nature divine. Et pourquoi parfois on manque de révélation sur ce royaume, sur ce ciel? C'est parce qu'on est encore trop avec ces deux semences. C'est parce qu'on a encore trop ces deux fils, on a encore trop ce cœur tortueux et on manque du cœur de Christ. Mais quand on a le cœur de Jésus, il nous atteste par le Saint-Esprit toutes ces choses à venir. Voilà pourquoi cette sanctification, cette radicalité dans la conversion, eh bien c'est quelque chose de merveilleux.
c'est quelque chose de bon, parce que c'est ce qui nous permet, comme le disait l'apôtre Pierre, de sortir de cette génération perverse, mais de tout cœur, avec toute notre âme et avec toute notre force. Tant qu'on a encore un cœur tortueux dans lequel vient Jésus et on apprend des choses bonnes, ben on marche comme ça. Mais la vraie repentance, c'est notre salut, bien-aimé. De vraiment renoncer à toute notre vie, à toute chose, c'est notre salut, parce que c'est que là que par la foi dans la puissance de Dieu, c'est une souffrance terrible. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui sont venus là au centre où on est et qui sont arrivés et qui ont fini par dire « Mais je n'étais même pas chrétien !» C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Mais des gens qui avaient des paroles de connaissance, qui vivaient des dons spirituels, qui avaient reçu le Saint-Esprit, comme on le dira. Mais après avoir été instruits, et c'est un combat au vainqueur, je donnerai des vêtements blancs. On a à se battre. C'est un combat ici-bas. C'est dur. Celui qui ne connaît pas le combat spirituel, eh bien, c'est celui qui ne connaît pas la voix de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est celui qui n'est pas en train d'être sanctifié. S'il n'y a pas un combat spirituel dans notre vie de tous les jours et que Dieu ne nous parle pas précisément par rapport aux choses, comment voulons-nous être sanctifiés? Il y a un combat. C'est difficile. Mais si vraiment on se renie, qu'on accepte ce combat, qu'on fait notre part à nous, c'est ici mon alliance, que vous respecterez. Si on se repent, et si Jésus a dit « repentez-vous », c'est que c'est possible de se repentir. N'écoutons pas toutes ces voix qui nous ont façonnés. Même si ça nous paraît impossible, rassurez-vous, Jésus a dit « pour l'homme c'est impossible ». Mais pour Dieu tout est possible. Et si on obéit à Dieu, si on se repent de tout notre être, on renonce réellement à notre vie, alors notre foi, elle va nous faire connaître ce qu'est vraiment le salut. Et oui, nous serons purifiés, nos péchés seront pardonnés, mais Dieu va commencer à nous libérer réellement de cette nature adamique. Et c'est possible que personne ne vous séduise. C'est possible. Et alors, quand ce nouveau cœur nous est donné, cette nouvelle vie nous est donnée, cette vie, elle commence vraiment à aimer les choses de Dieu, à connaître les choses de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, pas par du savoir, mais par une vraie huile. Par la vraie huile de Gethsémané, elle connaît son Seigneur, elle connaît les choses de Dieu, elle connaît le ciel, elle connaît le royaume. Et alors c'est avec amour, alors là oui, avec passion, que l'on marche dans les voies de Dieu et qu'on crucifie la chair avec ses passions et ses convoitises. Que l'on sait avoir un non qui soit non et un oui qui soit oui. Et c'est là que l'on grandit dans la révélation des choses du ciel. Et ces choses du ciel, elles prennent le pas sur nos vies. Et Christ prend le pas sur nos vies. Et alors on peut dire comme Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est vrai, c'est pas des paroles qui restent extérieures, c'est vrai. Et c'est ça la vie chrétienne, et c'est ça l'évangile de gloire. Alors ça passe par des combats, ça passe par du temps à genoux. Et on est une génération qui a de la peine à se mettre sur ses genoux. Je parle d'une victoire sur la chair qui est possible, mais qui se fait à genoux. Ça n'a rien d'une proclamation. Vous savez, les démons, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu et ils tremblent. On peut savoir qu'il est le Fils de Dieu, on peut se rassurer. Parfois, l'Évangile aujourd'hui, dans certains milieux, c'est comme qu'il donne bonne conscience. Voyez, il nous donne une bonne conscience. C'est terrible parce que souvent encore, on se sert de Dieu. C'est pour ça que je disais un révolté. Parce que si vous creusez, on se sert de Dieu. Parce que c'est vrai que quand on a une conscience purifiée par notre foi dans le sacrifice de Jésus, eh bien, on est mieux. Eh bien, le Saint-Esprit, il nous apporte du réconfort. On peut même être guéri. Et finalement, on a comme une bonne conscience, on se sent bien. Mais on ne connaît pas réellement Dieu. Et est-ce que Dieu nous connaît réellement? Est-ce que Dieu nous connaît réellement? Alors, il ne faut même pas vouloir servir Dieu, comme je le dis souvent. Oui, moi je veux servir Dieu, moi je veux faire ceci, cela. Tu peux faire tout ce que tu veux, si ton moi, il n'est pas crucifié, et que tu ne connais pas cette humilité, ce brisement, pour laisser Christ faire ce qu'il veut de toi. Il y en a qui se servent de Dieu, il y en a qui servent Dieu. Qui sont ceux qui laissent Dieu se servir d'eux? C'est ça la vie chrétienne. De laisser Dieu se servir de nous. De lui-même susciter la foi en nous, susciter ses sentiments, susciter ses pensées. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on veut faire. Cet orgueil caché. Vous savez, ce vieil homme, il est si subtil. Et il est diabolique. Il se déguise. Il se déguise parfois en fausse humilité. Ils se déguisent parfois en serviteurs, ou ils se déguisent en découragement, ils se déguisent en se justifiant. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir. Et souvent, quand il approche du but, eh bien là, ouh, non, il ne peut pas. Et souvent, il ment, parce qu'il est menteur dès l'origine. C'est pour ça que je vous dis qu'il est diabolique. Plus j'avance, plus je vois qu'il conteste la parole de Dieu. Il croit que ce n'est pas possible de se repentir, donc il ne croit pas à Dieu. Et il ne peut pas accéder à cette dimension de l'esprit. Parce que cette dimension de l'esprit, c'est quelque chose de réel, bien-aimé. C'est quelque chose de réel. On a minimisé l'évangile de Christ parce qu'on ne le craint plus, qu'on ne lui obéit pas. Et alors, il ne peut pas libérer sa puissance. Il ne peut pas libérer sa puissance. Mais il libère sa puissance dans les cœurs humbles, dans les cœurs contrits, dans ceux qui sont prêts réellement à tout lâcher. Voilà, bien-aimé, j'aimerais m'arrêter en vous lisant ces paroles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont des paroles terribles, bien-aimé, que je crois que je répète parfois quand je suis invité à prêcher dans les églises, pas pour les rabâcher, mais parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui. C'est ces paroles qui ne sont pas pour vous faire trembler, mais pour que chacun de nous, on soit de ceux qui sont vraiment dans l'alliance. Dans l'alliance que Dieu a faite, et non pas dans la nôtre. Dans l'alliance de la circoncision, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et bien ces paroles, c'est dans Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Et Jésus dira, « Et nous avons fait beaucoup de miracles en plus par ton nom. » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je ne vous ai jamais connu. C'est trop facile de dire oui, mais ça c'était des faux chrétiens qui faisaient n'importe quoi. Moi je pense que Jésus nous parle très sérieusement dans ce chapitre 7. Et Jésus, souvent, et on a raison, il est doux et humble de cœur. Dans notre vie, on est appelé à manifester les fruits de l'Esprit, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu. Mais Jésus, c'est aussi celui qui a pris le fouet et qui a purifié le temple. Lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que c'est un Seigneur qui revient avec des yeux de feu, avec une verge à la main. Il est venu comme le fils de Joseph, le Ben Yosef, l'agneau de Dieu. Il va venir comme le fils de David. Il va venir pour juger. Ces chrétiens-là, ils ont été désapprouvés. Et je crois qu'ils étaient sûrs d'être de ceux qui seraient approuvés. Et Jésus leur a dit ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est exactement, presque mot pour mot, les mêmes paroles qu'il a dit à ces vierges folles, qui n'avaient pas cette huile dont on a parlé tout à l'heure. Lorsque la porte était fermée, ces vierges leur ont dit, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Je ne vous connais pas.